Et puis, un jour, en recommençant la bagarre avec les masques, il prend un masque pour lui, un masque blanc, et puis il m'en donne un, mais alors vraiment affreux, de monstre, avec des dents qui sortent, vert, enfin c'est vraiment le type absolument de monstre. Et il m'attaque. Ça s'est passé sur deux séances, je ne vais pas développer toutes les séances à la suite, mais à la fin de la deuxième séance, disons qu'il avait commencé ce jeu, il l'a arrêté parce que c'était trop fort pour lui, un jeu qu'il allait donner dans son entier à la séance d'après, hein. Mais il le sentait venir et à un moment il l'a arrêté. Et la séance d'après, il a repris là où il en était, c'est-à-dire, tu es un monstre. Et là, il s'est adressé à moi directement en disant, tu es un monstre, tu m'as trahi. Et moi, je lui pose toujours une question dans ce qu'il dit pour qu'il aille un petit peu plus loin. Vers la fin de cette séance, avec la pointe de son manche à balai, il l'a passé sous mon masque et d'un seul coup, il l'a enlevé en disant « Ah, je savais bien que tu étais ma mère ». Et cette phrase m'a, je dirais, assez bouleversée, parce que même si je m'étais dit « Tiens, c'est peut-être le personnage maternel, archaïque, qui est visé », le fait qu'il le dise comme ça, avec cette clarté, cette violence et sur un ton de tragédie antique, c'était assez bouleversant. Et il ajoute « Oui, tu m'as trahi ». Alors moi, je fais l'étonné, je t'ai trahi, qu'est-ce que c'est ? Il dit « Tu m'as trahi, tu as tué mon père ». Et c'était donc quelque chose comme une vengeance, d'après lui. Alors, ça c'était à peu près la fin de cette thérapie. Après, il a montré dans les séances suivantes qu'il était prêt à passer à un Œdipe, c'est-à-dire à se mettre à séduire le personnage maternel qu'il avait de cette façon-là précisé. Hein. Elle était passée d'une espèce d'entité monstre asexuée, inconnue, à une mère. Hein. C'est ma mère qui est là. Et donc, il s'est mis à essayer de... Oui, une séduction, mais pas la même séduction qu'il avait au début, qui était complètement... pour lui, c'était dans la foulée de l'archaïque. Hein. C'était vraiment essayer de... d'avoir son accord, enfin de lui plaire, mais au sens directement sexuel comme ça avait été au début, quoi. Donc il entrait dans une vraie relation. Bon, c'est à ce moment-là que il a été déplacé de l'institution, je ne l'ai donc pas revu. Ça avait été donc juste deux séances qui m'avaient donné l'impression qu'il pouvait commencer à construire quelque chose du côté de l'Œdipe. Et il a quitté l'institution. Bon, depuis, je l'ai revu, puisque pour faire état de cette thérapie dans mon livre, je lui ai quand même demandé l'autorisation, je lui en ai parlé. Et il a 17 ans maintenant, et il mesure 1m72, quoi, ce qui est relativement. Alors, je pense que ce qu'on appelle nanisme affectif, c'est quelque part une agressivité retenue, parce que d'autres enfants nous ont un petit peu donné l'explication de ça. C'est un petit peu comme s'il se mettait des freins. Un enfant nous avait fait comme ça un dessin d'une fusée qui était aussi diagnostic de nanisme affectif. Il nous avait dessiné comme ça une fusée qui était retenue au sol par de gros filins très très fort attachés, et la fusée pouvait pas partir, se planter dans la lune, quoi. Bon, alors vous savez bien qu'il y a pour tout ça des explications sexuelles, de figuration sexuelle. Mais ce à quoi on a été amené avec mon équipe, là, ça a été de repérer ce qui était en amont de ces figurations sexuelles. C'est-à-dire qu'ils ont à peu près les mêmes représentations, parce que faire un trou dans un carton avec un épieu piquant, pointu, ça peut être effectivement interprété, comme le faisait Mélanie Klein d'ailleurs, du côté du sexuel et de l'Œdipe. Et on avait essayé ces explications-là, enfin ces interprétations-là avec ces enfants, et on avait vraiment l'impression que ça ne leur parlait absolument pas. C'est pour ça qu'on les a laissés développer leur propre cheminement, quoi.